Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Abdourahmane Dia et Claire Morin-Jabour avec vous en direct du studio 9 de La Voix de l'Amérique à Washington. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui, au sommaire ce soir.
Au Soudan, c'est la marche dite du million à Khartoum pour exiger le transfert du pouvoir aux civils.
La Croix-Rouge s'alarme de l'intensification des violences en Libye.
Ici aux États-Unis, l'ancien vice-président Joe Biden a annoncé sa candidature à la présidence.
Rencontre Kim Jong-un, Vladimir Poutine, le président russe appelle au respect du droit international et non au droit du plus fort.
Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Au Soudan, une foule de manifestants se rassemble à nouveau aujourd'hui à Khartoum. Cette fois, c'est pour la marche du million organisée à l'appel des leaders de la contestation en dépit des discussions avec les dirigeants militaires sur un transfert du pouvoir à une autorité civile. Jacques Aristide.
C'est une contestation qui va crescendo. De nombreux manifestants viennent grossir le sit-in devant le quartier général de l'armée. Pour la première fois, des juges ont rejoint le mouvement. Le conseil militaire dit avoir conclu un accord avec la coalition représentant les protestataires. Ce conseil, qui s'est donné un mandat de 2 ans, a également annoncé la démission de 3 de ses 10 membres, 3 généraux de l'armée. Des départs favorablement accueillis par les manifestants, leur principale revendication demeure une autorité entièrement civile sans plus tarder. Le mouvement a reçu cette semaine le soutien de Washington, qui a dit appuyer la demande légitime des Soudanais d'un gouvernement dirigé par des civils. Mais le récent sommet des chefs d'État africains réunis au Caire a donné un délai de 3 mois aux militaires soudanais qui dirigent le pays depuis la chute du président Omar el-Béchir.
En Algérie, la Chambre haute du Parlement a entamé aujourd'hui la procédure de levée de l'immunité parlementaire de 2 de ses membres, ex-ministre du président déchu Abdelaziz Bouteflika. Il s'agit de Saïd Barkat et de Jamel Ould Abbès. Tous deux ont enchaîné les postes ministériels dès l'arrivée à la tête de l'État en 1999 d'Abdelaziz Bouteflika, et ce jusqu'en 2012.
Au Burkina Faso, l'opposant Zéphirin Diabré dénonce un ethnicisme qui prend une tournure violente après une série de massacres de communautés du nord du pays. Début avril, 62 personnes ont été tuées lors d'affrontements intercommunautaires dans la commune d'Arbinda, frontalière du Mali.
Des pirates ont attaqué un pétrolier et enlevé 6 marins au large des côtes nigérianes. Selon le Bureau maritime international, l'APECUS, ce bateau a été attaqué vendredi dernier alors qu'il était ancré au large de l'île de Boni, au sud de Port Harcourt. Les enlèvements pour rançon sont fréquents au large du Nigeria. 14 attaques de piraterie ont été rapportées au premier trimestre de l'année contre 22 pour la même période l'an dernier.
Le chef de l'ONG Norwegian Refugee Council s'est indigné ce jeudi du silence de la communauté internationale face aux atrocités commises, selon lui, sur des civils des régions anglophones du Cameroun. Jan Engelen, secrétaire général du RNC, estime que lorsque la violence aveugle déplace des centaines de milliers de personnes, elle déclenche généralement les sonnettes d'alarme de la communauté internationale. Cela ne semble pas s'appliquer au Cameroun, a-t-il ajouté.
Le Mozambique se prépare à l'arrivée du cyclone Kenneth, 1 mois après le passage dévastateur plus au sud de son prédécesseur Idai, qui s'était soldé par 1 millier de morts dans la région. Kenneth pourrait provoquer des inondations et des glissements de terrain dans la province du Cabo Delgado, située à la frontière avec la Tanzanie. Près de 700 000 personnes sont menacées par ce cyclone.
Un tribunal mozambicain a condamné 37 personnes à des peines de 12 à 40 ans de prison pour leur participation à l'insurrection islamiste meurtrière qui secoue le nord du pays depuis 1 an et demi.
Le comité international de la Croix-Rouge s'est alarmé aujourd'hui de l'intensification des violences en Libye et de la dégradation de la situation humanitaire à Tripoli. Les quartiers résidentiels de la capitale deviennent de plus en plus des champs de bataille. Nous faisons le point avec Raïssa Girondin.
La situation humanitaire dans et autour de Tripoli s'est gravement détériorée depuis 3 semaines, affirme le CICR dans un communiqué. Plus de 30 000 personnes ont quitté leur maison et ont trouvé refuge chez des proches ou dans des bâtiments publics. Des coupures de courant sont fréquentes dans les zones où se déroulent les combats. Les hôpitaux et les points d'eau qui ont déjà souffert des violences depuis 8 ans sont encore affaiblis selon le CICR. Des quartiers densément peuplés deviennent progressivement des champs de bataille, a déclaré Younes Raoui, directeur du CICR à Tripoli. Au moins 278 personnes ont été tuées, plus de 1300 blessés en plus de 3 semaines de conflit, selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé. Après une rapide progression, les forces de l'armée nationale libyenne du maréchal Khalifa Haftar font face à une contre-offensive des troupes loyales au GNA qui les ont repoussées au sud de Tripoli.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, l'ancien vice-président démocrate Joe Biden a officialisé sa candidature dans la course à la Maison-Blanche. Il devient le 20e candidat potentiel qui devra d'abord passer le cap des primaires chez les démocrates. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Les valeurs fondamentales de cette nation, notre rang dans le monde, notre démocratie même, tout ce qui a fait l'Amérique est en jeu. C'est la raison pour laquelle j'annonce ma candidature à la présidence des États-Unis, a écrit Joe Biden, 76 ans, sur Twitter. L'ancien vice-président devient ainsi le 20e candidat à briguer l'investiture démocrate pour la présidentielle de novembre 2020. Après 2 tentatives malheureuses en 1988 et 2008, il a entretenu le suspense pendant des mois. D'après un sondage réalisé par le site Real Clear Politics, les 2 dernières semaines, avec 29,3% des suffrages, Joe Biden se trouve dans le peloton de tête chez les démocrates, avec le sénateur Bernie Sanders, 23%. M. Biden aime mettre en avant ses origines modestes qui pourraient lui donner un avantage dans les bassins industriels qui ont basculé en faveur de Donald Trump en 2016. Les banquiers de Wall Street et les PDG n'ont pas construit les États-Unis. C'est vous, la classe moyenne, qui avez construit les États-Unis, a-t-il lancé la semaine dernière à des grévistes. Il reste populaire chez les électeurs âgés, les modérés et les noirs.
Zalmay Khalilzad, l'émissaire des États-Unis pour l'Afghanistan, a exprimé ses regrets après la publication hier d'un rapport de l'ONU sur les victimes civiles du conflit. Au premier trimestre 2019, les forces internationales et pro-gouvernementales ont été responsables de la mort de 305 civils contre 227 tués par les talibans et autres groupes.
Vigilance accrue pour les équipes chargées de la vaccination contre la polio au Pakistan. 3 personnes, une vaccinatrice et 2 policiers chargés de la sécurité, ont été tués depuis le début de la semaine. Aucun groupe n'a revendiqué ces violences, mais des extrémistes dans les talibans pakistanais ont par le passé attaqué des équipes de vaccinateurs contre la polio, provoquant la mort de plus de 100 personnes depuis décembre 2012.
Suite aux attentats qui ont fait 359 morts dimanche, la chasse à l'homme se poursuit au Sri Lanka où une série de fausses alertes à la bombe ont fait monter la tension. 16 nouvelles arrestations ont eu lieu, portant à 75 le total des personnes interpellées. Le plus haut responsable du ministère de la Défense a démissionné. L'État sri lankais a reconnu sa défaillance alors qu'il avait reçu des informations indiquant qu'un mouvement islamiste radical local s'apprête à commettre des attentats.
Kim Jong-un poursuit sa visite en Russie. Le leader nord-coréen s'est employé ce jeudi à raviver les liens historiques entre Moscou et Pyongyang. C'était lors de son premier sommet avec Vladimir Poutine. John Lyndon.
Kim Jong-un a assuré avoir passé un très bon moment après 2 heures de tête-à-tête avec le président russe à Vladivostok. « Nous venons d'avoir un échange d'opinions très substantiel », s'est-il félicité. De son côté, Vladimir Poutine a évoqué une discussion assez circonstanciée. Face à la presse, le président russe a souligné que seul le respect du droit international et non le droit du plus fort permettra une résolution de la crise sur le programme nucléaire nord-coréen. Malgré ses invitations répétées à M. Kim, la Russie était restée jusqu'à présent à l'écart de la détente observée sur la péninsule coréenne depuis début 2018. Deux mois après le fiasco de sa deuxième rencontre avec le président américain à Hanoï, le dirigeant nord-coréen cherche des soutiens et un certain rééquilibrage de ses relations avec Pékin, son plus proche soutien, et Moscou, son ancien allié de la guerre froide. Aucun communiqué commun ni signature d'accord ne sont prévus à l'issue de ce sommet.
Et pour finir, en Syrie, plus de 1600 civils ont été tués en 2017 à Raqqa durant l'offensive de la coalition internationale contre le groupe État islamique. Selon un rapport d'Amnesty International, la coalition a admis être responsable de la mort de seulement 159 civils, a déploré Amnesty.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée par Nani Talani.
En Algérie, la société publique du pétrole Sonatrach a décidé de ne pas renouveler son accord d'échange de brut contre des produits pétroliers avec le négociant suisse Vitol. L'accord arrivera à expiration à la fin de ce mois. L'agence Reuters rapporte que cette décision intervient alors que la raffinerie pétrolière que Sonatrach a rachetée auprès d'Exxon l'année dernière revient de 45 jours de maintenance. Avec une capacité de production de 175 000 barils par jour, cette raffinerie réduira les importations de carburant en Algérie, notamment l'essence et le gasoil. Au Ghana, le géant minier Newmont Goldcorp indique que le projet d'extension de l'usine de sa mine Afo entrera en production avant la fin de cette année pour un investissement compris entre 35 et 45 millions de dollars. L'agence Ecofin publie que cela devrait augmenter la production de la mine Afo d'environ 75 000 à 100 000 onces d'or par an sur les cinq prochaines années à compter de 2020. Cette extension et le projet sous train Subika récemment achevé vont accroître la production globale de Newmont de 550 000 à 650 000 onces par an au cours de la même période. Pour terminer, aujourd'hui, pour la première fois depuis fin octobre, le baril de Brent a dépassé les 75 dollars, culminant à 75,35 dollars à Londres, soit une hausse de 78 cents par rapport à la clôture d'hier.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Sadio Mané est dans l'équipe de l'année en Première Ligue.
Oui, déjà nominé pour le titre de meilleur joueur du championnat anglais, l'ailier sénégalais de Liverpool est le seul joueur africain à figurer dans cette équipe type où on retrouve trois autres joueurs de Red, les latéraux Andrew Robertson et Trent Alexander-Arnold et le défenseur Virgil van Dijk. Manchester City se taille à la part du Lyon avec 6 des 11 joueurs, le gardien Ederson, le défenseur Emeric Laporte, les milieux de terrain Bernardo Silva, Fernandinho et les attaquants Sergio Aguero et Raheem Sterling. Paul Pogba de Man U complète cette équipe type formée par le syndicat des joueurs professionnels anglais. Parmi les grandes absences, on note celle de la star égyptienne Mohamed Salah qui a marqué 19 buts en Première Ligue cette saison.
La CAN 2019 en Égypte se jouera sous état d'urgence.
Oui, l'état d'urgence instauré en Égypte en avril 2017 pour des raisons de sécurité vient d'être prolongé de 3 mois, ce qui couvrira la période de la CAN 2019. L'état d'urgence a été imposé pour la première fois par le président égyptien il y a 2 ans, suite à 2 attentats meurtriers qui avaient fait 47 morts et 120 blessés dans des églises des gouvernorats septentrionaux de Gabia et d'Alexandrie.
Fin de série pour Ibrahimovic, ici en MLS.
Oui, l'attaquant suédois du Los Angeles Galaxy est resté muet pour la première fois en 5 matchs du championnat nord-américain de football. Lors du nul de son équipe à Minnesota 0-0, Zlatan Ibrahimovic, auteur de 6 buts lors des 4 précédents match du Galaxy, n'a pas trouvé d'ouverture face à une équipe de Minnesota très physique. Ibra reste coincé à la 2e place du classement des buteurs avec 7 réalisations, soit 3 de moins que le Mexicain Carlos Vela du Los Angeles FC, leader de la conférence Ouest avec 22 points et 1 match de plus. À l'Est, DC United a consolidé sa 1ère place grâce à son succès à Columbus 1-0.
NBA pour terminer, Houston se qualifie pour les demi-finales de la Conférence Ouest.
Et oui, les Rockets ont remporté devant leur public le quatrième succès décisif sur le score de 100 à 93 grâce aux 26 points de James Harden. Au prochain tour, Houston pourrait affronter le double tenant du titre Golden State qui mène 3-2 face aux Los Angeles Clippers. Le duel entre Rockets et Warriors était l'affiche de la finale de la Conférence Ouest en 2018 et il s'était décidé en 7 matchs très serrés, 4-3 en faveur de Golden State.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Clairement, Djibour et Abdourahmane Dia, toujours avec vous. Pour la seconde partie du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com, place maintenant au dossier du jour.
En Guinée, l'idée d'une nouvelle constitution proposée et défendue par le parti au pouvoir fait débat dans le pays. La société civile et l'opposition guinéenne soupçonnent des manœuvres visant à donner la possibilité au président Alpha Condé de briguer un troisième mandat. Les deux entités se sont organisées au sein du Front National pour la Défense de la Constitution. Reportage à Conakry, Zakaria Camara.
Le siège du Front National pour la défense des acquis démocratiques. Plusieurs dizaines de femmes, toutes vêtues de rouge, sont venues exprimer leur opposition à toute modification de la Constitution.
Le président de la République a été élu à partir de cette Constitution. Aujourd'hui, nous ne voyons aucune situation qui amène à soumettre une nouvelle Constitution au peuple de Guinée. Ce qui veut dire que toute personne qui va se hasarder dans ce domaine est constituée comme un putschiste. C'est un coup d'État.
Les organisations de la société civile guinéenne n'entendent pas baisser les bras. Elles se disent prêtes à mener les actions contre toute initiative qui viole les lois guinéennes. Selon Abdourahmane Sano, membre du Front, le président Condé n'a aucune alternative.
Nous ne voulons pas que notre pays soit pris en otage par un système, ou en tout cas une clique qui voudrait amener le président à s'éterniser au pouvoir en violation des règles du jeu de base comme la Constitution. On ne veut pas. Et c'est pour ça que nous avons pensé initier ce mouvement pour nous opposer à toutes les initiatives allant dans ce sens.
Les pro et anti-nouvelles constitutions sont actifs sur le terrain. Chacun y va de son argument. Les promoteurs d'une nouvelle république, eux, parlent d'une nécessité. Al-Hussein Makanira Kake, membre de RPG Arc-en-Ciel, parti au pouvoir.
La première démarche, c'est de convaincre la population de la nécessité de l'adoption d'une nouvelle constitution parce que celle-là ne favorise ni les libertés démocratiques, ni le développement économique et elle n'est même pas le reflet de la volonté du peuple de Guinée. Deuxièmement, la seconde phase, c'est de faire en sorte que les préoccupations de toutes les couches sociales soient prises en compte dans la nouvelle constitution. Ça, ce sera la seconde phase.
L'opposition guinéenne a fait savoir qu'elle ne permettrait aucune modification ou adoption d'une nouvelle constitution. Pour elle, le président Condé veut être candidat à sa propre succession. Ahmed Tidiane Silla, responsable de la cellule de communication de l'UFR, parti de l'ancien Premier ministre Sidi Touré.
Ce qu'il faut retenir, qu'on parle de nouvelle constitution, qu'on parle de révision constitutionnelle, qu'on parle de glissement, tout ceci ne vise qu'un seul objectif, accorder un troisième mandat à Alpha Condé. Donc il n'est pas question, nous sommes là pour défendre la Constitution et on va le faire.
Selon les membres du Front National pour la défense des acquis démocratiques, les déclarations du président Alpha Condé donnent plus de lumière sur ses intentions. Il y a quelques jours, le chef de l'État guinéen avait dit que personne ne peut l'empêcher de consulter le peuple. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
En Côte d'Ivoire, les organisations de consommateurs réclament des poursuites judiciaires à l'encontre de tous ceux qui sont impliqués dans le débarquement du riz avarié au port d'Abidjan. Il s'agit de 18 000 tonnes de riz en provenance de la Birmanie, du riz qui avait été refoulé au port de Conakry et de Lomé. À Abidjan, les précisions de Georges Ibrahim Tunkara.
C'est l'indignation au sein des organisations du consommateur des Côte d'Ivoire. Comment du riz avarié, refoulé au port de Conakry en Guinée, de Lomé au Togo et de Tema au Ghana, a-t-il pu se retrouver dans les entrepôts du port d'Abidjan à la mi-mars dernier, qui a bien pu autoriser le débarquement de ces 18 000 tonnes de riz avarié? Doukwa Godé est le président de la FACSI, la Fédération nationale des consommateurs de Côte d'Ivoire. C'est lui qui a donné l'alerte aux autorités ivoiriennes suite à des informations reçues du Burkina Faso et du Togo. Son organisation va demander au procureur de la République d'ouvrir une enquête sur cette affaire.
Nous allons demander au procureur de la République de porter plainte contre tous les acteurs qui sont impliqués dans l'importation de ce riz-là, parce que c'est gravissime. Les tests, même en Côte d'Ivoire, prévoient que toute personne qui importe des produits de mauvaise qualité impropres à la consommation à Côte d'Ivoire doit être poursuivie. Au-delà de la destruction du riz, qu'il y ait des poursuites judiciaires.
La classe politique ivoirienne également donne de la voix. Nathalie Yamb, du parti leader, le parti de Mamadou Koulibaly, dénonce le débarquement de ce riz avarié au port d'Abidjan et se demande comment cela a-t-il pu se faire.
Comment peut-on décharger à Abidjan un riz qui a été refoulé à Conakry, à Lomé, à Tema, qui n'était même pas destiné à la Côte d'Ivoire au départ, puisque tout devait être déchargé à Conakry. Alors qui prend sur lui pour dire « c'est bon, faites venir la chose ici ». Ça doit venir de très haut, ce n'est pas possible autrement.
Nathalie Yamb déplore par ailleurs qu'aucune sanction n'a jusque-là été prise contre les responsables du débarquement de ce riz au port d'Abidjan.
Je trouve absolument ahurissant de la part du gouvernement que l'on puisse de nouveau laisser pénétrer sur le territoire des cargaisons avariées, dangereuses pour les populations, que cela ne soit pas suivi de sanctions, ni pour l'importateur, ni pour les personnels des douanes et du port qui ont laissé entrer cette cargaison.
En tout cas, cette affaire en rappelle une autre, celle du Probo Koala, ce navire qui avait déversé en 2006 des déchets toxiques au port d'Abidjan. Doukwa Godé, président de la FACSI, la Fédération nationale des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire.
Malheureusement, on n'en a pas suffisamment tiré leçon de ce mauvais souvenir qu'est le Probo Koala, dont les conséquences continuent encore d'exister encore à Côte d'Ivoire, puisque certaines personnes qui ont été empoisonnées par ce produit toxique sont encore malades. Je pense qu'on devait en tirer leçon.
En dépit de l'opération de destruction commencée le 16 avril dernier, les organisations des consommateurs redoutent qu'une partie de ce riz avarié ne soit déjà sur le marché. Georges Ibrahim Tounkara, Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Au Gabon, la Caisse nationale de sécurité sociale est secouée par des problèmes financiers. Pour faire face à la crise, l'institution a décidé de reconsidérer son mode de paiement des pensions, provoquant la colère de 20 000 à 30 000 retraités du pays. La SNSS peine à faire le recouvrement de ses cotisations. Reportage à Libreville de notre correspondant Ismaël Obiangze.
Le retour à l'ancien régime de paiement des pensions fâche les retraités gabonais. Selon la direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale, l'option de la trimestrialisation des allocations s'impose, sinon l'institution court droit vers la faillite. Docteur Nicole Asselé, directrice générale de la CNSS.
Les actifs actuels, ils ont diminué parce que la crise économique, moins d'assurés, moins de sociétés, beaucoup de sociétés qui ferment. C'est tout un cercle vicieux. Elles disent que la dette intérieure n'est pas payée. Et comme la dette intérieure n'est pas payée, elles aussi, elles ne peuvent pas payer. Donc on se retrouve avec plus de 153 milliards qui n'arrivent pas à rentrer.
Pas assez comme explication pour persuader les pensionnés venus ce jour par dizaines crier leur colère devant les locaux de la Caisse de sécurité sociale. Édouard Nguema, porte-parole du collectif des retraités.
Ce n'est pas un problème de contexte économique. Le véritable problème de la CNSS aujourd'hui, c'est la gouvernance, c'est la gestion scabreuse de la direction générale de la CNSS. La CNSS a seulement d'argent.
Dans sa ligne de défense, la direction générale de la CNSS apporte des précisions sur le processus de traitement des dossiers. Patrick Ossi-Okori est chargé d'études à la direction générale de la CNSS.
Nos pères et nos mères qui sont dans l'incapacité de se déplacer pour venir payer pour des raisons médicales, nous allons chez eux payer à domicile et ça se fait de façon trimestrielle. Il n'y a pas eu de problème à ce niveau. tous ceux qui sont payés à l'étranger et qui sont toujours au trimestre. C'est le dispositif légal. L'ancien directeur général, M. Lassegué, a pris la décision de ramener les pensions mensuellement parce que le contexte économique qui prévalait à cette époque était favorable. Mais vous savez, entre 2014 et nous sommes en 2019, le contexte économique s'est considérablement dégradé.
Malgré tout, les retraités restent sur le principe de la mensualisation des pensions. Edouard Nguema, leur porte-parole.
Aujourd'hui, selon la CIPRES, les entreprises de moins de 20 salariés devraient payer leurs cotisations trimestriellement. Plus de 20 salariés, c'est mensuellement. On préfère qu'on mensualise le paiement de cotisations que d'attendre le trimestre.
Trimestrialisation ou mensualisation des pensions retraite au Gabon, aux législateurs de trancher. Libreville, Ismaël Obianzé, VOA Afrique.
Raissa Girondin avec vous. Cette semaine, dans ce Washington Forum, coup de projecteur sur l'Afrique du Sud. L'élection du premier président noir, Nelson Mandela, en avril 1994, consacrait la fin de l'apartheid. Elle avait suscité d'immenses espoirs, mais 25 ans après, nombre de citoyens sont déçus. Insécurité, pauvreté, inégalité, où en est la nation arc-en-ciel? Qu'en est-il de l'héritage de Nelson Mandela? Quelles sont désormais les attentes des Sud-Africains en vue des élections qui arrivent le 8 mai? Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi à 19h en temps universel.
En Centrafrique, c'est la polémique autour de la nature de l'accord conclu en février dernier entre le gouvernement et les groupes armés. Le procureur général de Bangui estime que cet accord est au-dessus de la constitution centrafricaine. Propos qui ont suscité une vague d'indignation dans le pays. À Bangui, pour VOA Afrique, Freeman Sipila.
Dans la foulée de l'arrestation de Paul Cresson Beninga, porte-parole du groupe de travail de la société civile qui a appelé à une manifestation pacifique le 15 avril dernier contre la nomination des chefs de guerre étrangers à des hautes fonctions de l'État et le manque d'eau potable à Bangui, le procureur général Eric Didier Tambo fait une déclaration surprise. Il qualifie de supranational l'accord de Khartoum conclu entre le gouvernement centrafricain et les groupes armés du pays le 6 février dernier.
L'accord de Khartoum est au-dessus de la Constitution, c'est-à-dire c'est supranational. C'est un accord politique dans ce cadre-là que le gouvernement a pu comprendre qu'il fallait amener les chefs rebelles dans le gouvernement. C'est-à-dire quand vous signez des accords internationaux, ces accords-là priment sur vos textes.
Cette déclaration a provoqué une vague d'indignation à travers le pays. Hommes politiques, membres de la société civile, internautes, tous montent au créneau. Ils dénoncent une déclaration irresponsable. Cyriac Gonda, président du Parti national pour un Centrafrique nouveau, PNCN.
Le droit totalement éventré pour moi, juriste, qui suis publiciste, internationaliste, pratiquant du droit international, je pense que aller affirmer que l'accord de Khartoum est dessus de la loi fondamentale à la constitution de notre pays, c'est grave, c'est antidoctrinaire. La doctrine du droit ne permet pas. Il n'y a que les traités qui sont au-dessus de la constitution parce que ces traités tirent leur source de la convention de Vienne de 1969.
Le terme supranational continue de faire le buzz sur les réseaux sociaux en Centrafrique. Même pour dire bonjour, les internautes se plaisent à dire supra-bonjour. Le chef de file de l'opposition, Anissé Georges Doleguélé, dénonce lui des ordres donnés aux magistrats pour les manipuler.
Bon, je vois pas très bien le lien. Il est procureur général. Nous attendons tous à ce qu'ils nous rendent justice. L'accord de Khartoum est politique. On est dans le domaine politique. Je dénonce les ordres qu'on donne aux magistrats pour les manipuler, pour les soumettre, pour les amener à faire des choses que quelquefois ils n'ont pas envie de faire.
Paul Cresson Beninga, le porte-parole du groupe de travail de la société civile, arrêté et libéré dimanche dernier après 3 jours de détention, fustige les propos du procureur général.
L'arrestation ne peut pas me dissuader, ne peut pas dissuader le GTSC. L'arrestation ne peut pas nous amener à reculer. La peur ne modifie pas la position du danger. Une fois de plus, vous comprenez que le parquet général est au service de la politique.
Pour le moment, le gouvernement n'a pas encore officiellement réagi à cette polémique qui continue d'alimenter les débats. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. À la mise en onde, Sims Loumami. À la console, Joe Gill, au micro, Claire Moragibour et Abdourahmane Dia.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24 heures sur 24, un seul site internet, voafrique.com et notre page Facebook, bien sûr. Restez avec nous tout de suite, le Washington Forum présenté par Raissa Girondin. Très bonne soirée à l'écoute des programmes de VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.